VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
7h à Ouagadougou, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Burundi, 7 personnes blessées, dont 2 grièvement aujourd'hui, dans l'explosion de 2 grenades lancées contre un bus de la police burundaise dans le quartier de Gassénié, à la périphérie nord-est de Bujumbura, la capitale. C'est ce qu'annonce le porte-parole adjoint de la police, Moïse Nkurunziza, en précisant que les forces de sécurité recherchaient les individus non identifiés responsables de cet attentat. La police burundaise, en première ligne dans la sanglante répression en cours depuis le début de la crise, a été jusqu'ici la principale cible des attaques des nouvelles rébellions naissantes dans le pays. Rappelons que le Burundi a plongé dans une crise émaillée de violence lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature à un troisième mandat en avril 2015. Une décision jugée par l'opposition, la société civile et une partie du camp présidentiel contraire à la Constitution et à l'accord de paix d'Arusha qui a mis fin à la guerre civile et en fait 300 000 morts entre 1993 et 2006. Au Congo-Brazzaville, l'appel à la journée ville morte lancé par l'opposition a été suivi à demi-teinte aujourd'hui. Si les quartiers sud de Brazza, la capitale politique, ainsi que Pointe-Noire, la capitale économique, et les villes du sud favorables aux opposants ont été paralysés, dans le centre de Brazzaville et le nord du pays qui soutiennent le président Denis Sassou Nguesso, les populations ont continué à vaquer normalement à leurs occupations. Plus de précisions avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Toute la soirée hier, les autorités et les responsables des organisations des jeunes et des femmes se sont succédés aux éditions d'information, appelant les populations à sortir massivement pour vaquer aujourd'hui à leurs occupations. Certains chefs d'entreprise et d'administration ont même menacé de sanctionner tous ceux qui ne se rendront pas au service ce matin. Et pourtant, lundi jusqu'en fin d'après-midi, les banques, les agences de transfert d'argent et les commerces sont restés noirs de monde. Les familles essayaient de faire quelques provisions pour rester tranquillement chez elles. Il n'est pas question, disent-elles, de sortir dans un climat conflictuel. Depuis quelques jours, les arrestations des opposants se sont multipliées à Brazzaville et à Pointe-Noire. Hier soir, la présence des forces de sécurité a été renforcée dans plusieurs villes du sud favorables à l'opposition, dans le but de sévir contre tout fauteur de troubles, a expliqué la police. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, 4 militaires et 12 rebelles tués dans les combats qui opposent depuis dimanche l'armée nationale congolaise à une coalition des forces rebelles dans le Massissi, territoire de l'est du pays. Les précisions de Jacques Aristide.
L'armée congolaise affronte une coalition des FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, et de deux groupes Maïmaï dans la localité de Mpati, d'après le capitaine Guillaume Djike Kaiko, porte-parole de l'opération telle que le rapporte l'AFP. Mpati est situé à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Goma, capitale de la province instable du Nord Kivu. Depuis quelques semaines, la police a déserté sa village de cette région, occupée de force par les miliciens, a expliqué le capitaine Djike. Les opérations se poursuivent pour libérer tous ces villages occupés illégalement par les FDLR et Maïmaï, a-t-il ajouté. Opposés au président rwandais Paul Kagame, les FDLR sont accusés de commettre régulièrement de nombreuses violations graves des droits de l'homme en RDC, où ils ont pris racine au fil des ans.
République centrafricaine, l'ONU fait état de deux nouvelles accusations d'abus sexuels impliquant ces casques bleus en Centrafrique. Plus de détails avec Félix Yepassi Zembrou.
Des membres du contingent militaire burundais de la MINUSCA, basé à Sibut, sont accusés d'avoir violé une mineure âgée de 14 ans. Et un soldat marocain, non encore identifié, est de son côté accusé d'avoir exploité sexuellement une femme adulte en février dernier à Bangassou. Rabat et Bujumbura ont été informés et le Maroc a indiqué qu'il allait mener une enquête, a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU. Face à la multiplication des scandales de ce genre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est engagé à rapatrier des contingents entiers en cas d'accusation persistante et le Conseil de sécurité a adopté le 11 mars une résolution en ce sens.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, deux militaires maliens tués et deux autres blessés hier dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur un engin piégé à Bambara Maoudé, à 100 km au sud de Tombouctou. L'ONU juge alarmante la situation sécuritaire dans le nord du pays et demande au gouvernement malien et aux pays contributeurs d'intensifier leurs efforts pour y faire face. Le point avec John Lindon.
Le secrétaire général Ban Ki-moon souligne dans son dernier rapport sur ce dossier que les régions nord et centre du Mali restent sous la menace de réseaux criminels, d'extrémistes violents et de groupes terroristes. Le rapport confidentiel transmis au Conseil de sécurité fait état des difficultés opérationnelles persistantes pour la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Ban Ki-moon demande aux pays fournisseurs des casques bleus et aux pays donateurs de maintenir leurs efforts afin que tous les contingents de la MINUSMA aient des équipements et un entraînement conforme aux standards de l'ONU. Le secrétaire général onusien appelle en particulier au déploiement rapide des véhicules blindés de transport de troupes qui manquent. De son côté, le gouvernement malien doit renforcer la présence de ses forces armées dans le nord et s'efforcer de rétablir plus largement les services publics de base dans cette région afin de garantir à la population locale les bénéfices tant attendus de la paix.
Au Niger, la cour d'appel de Niamey a accordé aujourd'hui la liberté provisoire à l'opposant Mahamadou, hospitalisé en France depuis le 16 mars. Il avait été évacué pour raison de santé de sa prison de Filenge, où il se trouvait en détention pour une affaire présumée de trafic de bébés. Et puis toujours au Niger, l'opposition nigérienne conditionne tout dialogue avec le président Mahamadou Issoufou, dont elle conteste la réélection, à la mise en place de ce qu'elle appelle une transition politique inclusive. Pour sa part, le président Issoufou souhaite la création de gouvernement d'union nationale avec l'opposition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le FBI et la police fédérale américaine a finalement réussi à débloquer l'iPhone d'un des auteurs de l'attentat de San Bernardino en Californie. Après avoir demandé pendant plusieurs semaines l'aide de la compagnie Apple pour décrypter cet iPhone, les enquêteurs ont finalement accédé aux données stockées sans l'aide d'Apple. Miley Segal a joué à Lyon, France. Anthony Nelzin, journaliste chez Mac Generation.
De ce qu'on sait, en tout cas de ce que l'FBI et en particulier la procureure fédérale a dit, peuvent déverrouiller l'iPhone sans compromettre les informations qu'il contient. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à trouver un moyen d'entrer le code à quatre chiffres sans que le téléphone s'efface, mais on ne sait pas s'ils ont encore réussi à extraire les données. Ça étant dit, une fois qu'ils ont réussi à faire tomber le code à quatre chiffres, ils doivent pouvoir réussir à récupérer une grande partie des données sans plus de problèmes que ça.
Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils ont procédé pour réussir à trouver ce nombre à quatre chiffres ?
C'est la grande interrogation. Plusieurs journalistes ont posé la question au FBI. À chaque fois, le FBI dit on a eu l'assistance d'une tierce partie, sans nommer la tierce partie en question. Il y a un quotidien israélien qui dit de son côté qu'a priori, ce serait une société israélienne qui s'appelle Cellebrite. C'est un peu ironique parce que c'est une société qui travaille avec Apple, d'ailleurs, qui est spécialiste de récupération de données. Et Apple utilise un produit de sa société pour faire passer des données d'un iPhone à un autre ou d'un téléphone Android à un iPhone. Mais le FBI n'a pas voulu confirmer si c'était bien cette société qui travaillait avec eux. La piste qui est privilégiée par les chercheurs en sécurité, c'est qu'en effet, il y aurait une copie. Alors, c'est une copie d'une puce de stockage sur l'iPhone. On ne peut pas récupérer directement les données de cette puce-là quand on enlève du téléphone, mais ce qu'on peut faire, en fait, c'est la cloner. Par exemple, faire 100 copies de cette puce-là. Et puis, avec un petit appareil spécifique qui se met entre la copie de la puce et le téléphone, tester 10 chiffres. Et puis, si dans les 10 codes qu'on a essayé, il n'y en a aucun qui est bon, on jette la puce. Et puis, on essaye avec une deuxième puce. Et puis, on recommence comme ça avec chacun des clones de la puce jusqu'à trouver le bon code. On a fait X sauvegardes de la puce. Et à chaque fois qu'on en grille une, on enlève la puce et puis on en remet une autre.
Est-ce que cela signifie que n'importe quel hacker peut décrypter un iPhone ?
Probablement pas. D'abord parce qu'on ne sait pas s'ils ont vraiment eu accès aux données. On sait qu'ils ont une piste. Qui peuvent déverrouiller l'iPhone sans compromettre les informations. On ne sait pas s'ils ont encore réussi à les récupérer. Et ça ne veut pas dire que n'importe quel hacker peut le faire. Il leur a fallu des semaines et des semaines pour trouver une piste. Ils ont à plusieurs reprises dit que les sociétés étaient venues vers eux. Donc on a vraiment beaucoup de monde qui se sont tournés vers l'FBI pour intervenir. Et il leur a quand même fallu beaucoup de temps. Donc ce n'est pas à la portée de n'importe qui non plus.
Anthony Nelzin, journaliste chez Mac Generation à Lyon, en France. Première présidentielle américaine, le président Barack Obama exhorte les médias américains à dénoncer les candidats à la présidentielle de 2016 qui mentent et aux efforts et mène des campagnes qui échappent à toute raison. Le chef de l'exécutif américain visait, sans le nommer, le milliardaire Donald Trump. Ce dernier est actuellement en tête de la course à l'investiture républicaine comme candidat à la présidence, avec une campagne marquée par des attaques personnelles, des propos jugés islamophobes et des débats qui tournent souvent au pugilat. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.